au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui me vaut le plaisir de recevoir le professeur Alain Dautria, consultant, professeur en stratégie à l'Institut supérieur de la communication, l'ISCOM. Alain Dautria est aussi un auteur éprouvé par plusieurs parutions, notamment par sa dernière parution Sur les murs de Paris, qui sont sortis aux éditions L'Inventaire Jazz Édition. C'est exactement ça. Alain Dautria, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir pris du temps pour nous rejoindre. Alors, vous êtes un expert reconnu du marketing et de la communication. Vous êtes doublé, bien entendu, d'une grande expérience professionnelle acquise dans l'exercice de fonctions élevées dans différents groupes bancaires. Mais on vous doit notamment, et je voudrais le rappeler, d'avoir introduit avec quelques pionniers en France la logique de la banque à distance. Ceci dans les années 80, ça ne nous rajeunit pas, mais c'était un point de départ d'un processus qui devait progressivement révolutionner la distribution des banques à réseau. Alors, vous êtes un homme d'action et de réflexion, mais vous êtes aussi, et c'est là-dessus que nous allons aujourd'hui échanger, un homme de plume, exerçant donc vos talents dans différents domaines qui vont de la littérature à l'histoire en passant par la culture. Et revenons, si vous voulez bien, maintenant sur votre dernière parution Sur les murs de Paris, guide des plaques commémoratives de la capitale. Alors, on en vient à cet ouvrage. L'idée vous est venue comment? Parce que, si j'ai bien compris, jusqu'à présent, personne n'avait eu cette idée, ce qui paraît d'ailleurs un petit peu paradoxal. Pourquoi, comment?
D'abord, merci pour le panorama rétrospectif et historique de ce que j'aurais été. Comment l'idée m'est-elle venue? C'est d'abord une question très difficile. La naissance de l'idée, ça fera sans doute partie des grands mystères et il y aura de gros travaux pour les chercheurs. L'idée m'est venue parce que, peut-être très intuitivement, je me suis dit, cette chose n'a pas été faite, il faut la faire. C'est d'ailleurs un réflexe presque d'entreprise. Il faut toujours chercher à innover, pas uniquement dans la fabrication des produits, mais également dans la diffusion des idées. C'est un peu ce que j'ai fait avec cet ouvrage.
Alors, vous utilisez bien entendu l'ensemble de vos compétences et de vos goûts sur l'histoire, sur la culture. Et vous nous présentez donc, à travers un index et un classement par arrondissement et par genre, les différentes donc, plaques commémoratives qui existent sur la capitale. Et qui donc, vous en avez recensé 2000.
Oui, il y en a 2000 qui se répartissent en gros en 1300 plaques dites culturelles qui consacrent donc les célébrités de la politique, des arts, des lettres, de la littérature, des arts plastiques, les militaires. Et puis il y a ces 700 autres plaques dont Paris serait sans doute bien passé, puisqu'il s'agit des plaques qui sont érigées à la mémoire des FFI et FTP tombés
pendant... Des martyrs, en quelque sorte.
Des martyrs, oui, tombés pendant la période 39-45.
D'accord. Et alors, ce que vous avez classé donc, ces plaques par plusieurs catégories, donc les fausses plaques, alors on va y revenir, les plaques volées, les plaques multiples et les absences de plaques, alors les oubliés de l'histoire en quelque sorte.
Tout à fait, oui.
Alors on peut développer un petit peu ces aspects-là.
Alors, sur le plan de la statistique, qui est très passionnante, on relève plusieurs choses. La première, c'est que, assez paradoxalement, ce sont les arrondissements les moins peuplés, on va dire le 5e et le 6e arrondissement de Paris, qui ont le plus fort taux de plaques. Autrement dit, à l'inverse, les arrondissements les plus peuplés, le 19 et le 20e, qui comptent, soit dit en passant, lorsqu'ils sont jumelés, plus de 400 000 habitants, ont un nombre de plaques inférieur aux deux doigts de la main, moins de 10.
Mais qui prend l'initiative de mettre une plaque? Enfin, on va y revenir tout à l'heure. Mais...
L'initiative peut revenir à n'importe qui, mais en général, le phénomène est associatif. Donc, ce sont des comités de soutien qui, voulant vénérer la mémoire d'un personnage célèbre ou illustre, il y a une petite différence, font une démarche et là, au final, la législation est à la fois simple et compliquée, mais on va dire que au final, c'est le préfet qui, dans un département ou à Paris, prend la décision, sur proposition donc des associations, et sous condition que la plaque revête un certain nombre de caractéristiques.
Alors, les fausses plaques, c'est quoi ?
Alors, les fausses plaques, il y a deux catégories de fausses plaques. Il y a, j'espère ne pas m'attirer ultérieurement les foudres de certains de ces comités, mais il y a des plaques qui ont été mises dans les années qui ont suivi la guerre à la mémoire de combattants tombés, alors qu'ils étaient tombés, c'est sûr, mais ils n'étaient pas forcément combattants. Il s'agissait d'avoir beaucoup de plaques quand on était un grand patron FFI ou FTP dans un secteur pour montrer que son unité était vaillante. Alors, je crois qu'il ne faut pas insister parce que c'est très, très minoritaire.
Très, très minoritaire et très, très sensible.
Voilà, et c'est très sensible. Dans les fausses plaques, il y a évidemment celles que tout un chacun peut se faire apposer sur son habitation, puisqu'on a abordé la question de la législation tout à l'heure, qui est régie par un décret de 46 modifié 1968. Il y a beaucoup de choses qui se sont modifiées en 68. Et cette législation donne une très grande liberté, sous réserve d'un respect de la forme et du fond, à tout un chacun dès lors qu'il est propriétaire des murs. Vous pouvez, je peux, si je suis propriétaire de mes murs, dans ma maison, me faire mettre la plaque que je veux. Alors, il y a eu effectivement, à ce titre, et pendant une certaine période, des plaques plus ou moins farfelues. Et puis, il y a la dernière catégorie, c'est celle des plaques qui sont des erreurs. Cas, par exemple, de Molière, qui a réussi la performance non seulement d'écrire de superbes pièces qui nous sont restées, mais également d'être né en trois endroits différents. Puisqu'il y a trois endroits qui revendiquent la naissance de Molière. Oui. Et pour, il en est de même pour sa mort.
D'accord.
Hein, il serait mort à trois endroits différents.
Donc on voit... Alors, les plaques volées, alors ça veut dire qu'elles attirent...
Alors les plaques volées, c'est une autre catégorie. Il y a d'abord les collectionneurs ou les fétichistes qui veulent absolument avoir la plaque de Voltaire ou de Rousseau.
Dans leur maison.
Mais il y a eu des plaques de règlement de compte. C'est-à-dire que lorsqu'on estimait que la personne consacrée, que l'histoire voulait immortaliser, ne méritait pas cette récompense de l'histoire, ça s'est fait justement dans les périmètres douloureux FFI-FTP. Comme par hasard, la plaque était déboulonnée quelques années après.
Oui, bien sûr. D'accord. Donc, ça, c'est effectivement, c'est réactif. Bien. Alors, est-ce que, donc, justement, vous venez de nous citer l'exemple de Molière, mais vous avez peut-être, au cours de vos recherches, de vos découvertes, rencontré des situations très, très originales au niveau de ces plaques ou pas ? Enfin, on a à peu près tout passé en revue.
On a à peu près tout passé en revue. Les choses émouvantes, ce qui m'ont été confié, évidemment, sous le secret, c'est... mais ça m'ennuie parce qu'il y en a très, très peu. Mais quand on me dit ce combattant n'était pas forcément FFI, il allait chercher sa baguette au moment où il y a un char allemand qui
d'accord.
a fait quelque chose.
Oui, oui.
Mais il y en a deux comme ça et je ne me garderai de citer le lieu.
D'accord.
Non, ce qu'il y a de plus, sans doute de plus scandaleux et condamnable dans les plaques absentes, puisque vous l'évoquiez assez justement tout à l'heure, c'est tout de même que le phénomène plaque date en gros du Second Empire. C'est-à-dire qu'il a embrassé toutes les républiques sur deux siècles. La République qui se veut liberté, égalité et fraternité a tout de même réussi la performance de ne récompenser que 3,5% de femmes sur deux siècles.
D'accord.
On peut imaginer qu'il y a eu beaucoup plus de femmes méritantes que 3% dans la population française, surtout si on compte que sur ces 3,5%, il y en avait la moitié où c'était pour fait de guerre, de résistance, et où les pauvres ont été fusillés ou déportés. Ça fait donc un pourcentage voisin de 1,7% de femmes méritantes dans la population des penseurs et des créateurs français.
Mmh. Mais ce qui s'inscrit dans la lignée, on va dire, d'autres domaines de représentation, qui sont par exemple les ordres nationaux et pour lesquels...
Absolument.
Vous le savez, le grand maître de l'ordre, le président de la République ainsi que le chancelier font d'énormes efforts pour essayer progressivement de rétablir une situation qui est absolument d'ailleurs
sans démagogie,
innommable.
Vous avez raison, un peu de parité ou un brin de quota supplémentaire aurait quelques fondements.
Très bien. Alors, on parlait d'émotion. Alors, vous en avez une première, donc j'imagine, c'est de Je crois savoir que vous n'avez pas découvert de plaque à l'honneur de Napoléon.
Oui
ou non ?
Alors,
donc pour le prof de stratégie que vous êtes, ça va être un moment douloureux.
C'est plus que douloureux, c'est irritant. Il faut presque envisager un traitement. Napoléon a été médicalement reconnu comme génial. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, là n'est pas la question. Lui n'a évidemment pas de plaque, si ce n'est celle... qui consacre son mariage sur l'immeuble d'une grande banque devenue aujourd'hui. Mais effectivement, sur la question de Napoléon, on lui a consacré une petite rue qui s'appelle d'ailleurs Bonaparte, alors que ses maréchaux, qui étaient réputés pour être vaillants, indiscutablement, mais qui n'avaient pas son niveau intellectuel, eux bénéficient, par Paris toujours, de l'ancêtre du périphérique qu'on appelle le boulevard des maréchaux, et chacun a une longueur très supérieure à celle du maître.
D'accord. Hein.
Mais il y a d'autres plaques qui sont, puisque vous parliez d'émotion, il y a de très nombreuses plaques qui sont très émouvantes.
Alors, dont une, mais alors là, vous avez changé votre casquette, qui est celle d'Alain Fournier, puisque oui. Vous êtes allé très au-delà simplement de constater cette défaillance, et vous avez pris l'initiative, je ne sais pas si c'est directement ou avec une association, pour réparer cet oubli. Vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Effectivement, j'ai, comme beaucoup de Français, vibré à la lecture du roman du Grand Maulne. Et lorsque je me suis rendu compte, et assez récemment, que son auteur, qui était pourtant plus que méritant, il avait été administré de la ville de Paris, il y a résidé, il est mort glorieusement au champ d'honneur en 14, dans les premières heures du conflit. Il signe encore aujourd'hui un roman qui est un best-seller mondial et Paris ne lui avait pas apposé de plaque. J'ai donc écrit à la ville de Paris qui a été remarquablement réactive et qui a rectifié l'erreur en apposant sur son domicile dans le 14e, la même où il a écrit Le Grand Maulne, eh bien une plaque qui rappelle sa mémoire.
Je vois avec satisfaction dans la table des matières que par contre Turgot, qui pour moi était une personnalité extrêmement importante, est représenté, en tout cas la famille, à trois reprises. Et Turgot, Anne-Robert Jacques, donc le grand Turgot, en tout cas, il n'a pas été oublié. C'est déjà une très bonne chose.
Vous n'êtes qu'en train de dire que cet ouvrage est complet.
Absolument.
Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors, c'est une question que je voulais signaler. Il va de soi que c'est un répertoire et qu'un répertoire, par définition, est mouvant. On a vu les plaques qui se déposaient chaque année pour différentes raisons. Mais il va de soi qu'il y a des plaques qui s'apposent et qui rendent très progressivement, heureusement, l'ouvrage caduque au fil des ans.
Alors c'est la raison pour laquelle vous envisagez de sortir cet ouvrage actualisé en livre de poche, prochainement, en tout cas on l'espère, mais c'est justifié effectivement par le fait que et les plaques aussi vivent et que donc il est nécessaire de faire une actualisation. Donc cet ouvrage est destiné à un large public, puisqu'en fait, il y a un côté culturel, historique, et là, donc, c'est une information générale. Mais il y a aussi un côté directement pratique, soit pour les habitants de l'arrondissement, de façon à ce qu'ils croisent un peu l'histoire et la géographie, et puis aussi peut-être pour les touristes. Vous n'avez pas encore envisagé de le faire traduire ?
C'est un problème intéressant, intelligent, mais qui relève de la chose éditoriale. Et comme vous savez, actuellement, c'est un secteur qui est remanié. Mais ce n'est évidemment pas à exclure. Effectivement, c'est un guide, puisque tel est le sous-titre, même si c'est un ouvrage dans la catégorie dite « beau livre ». C'est un livre qui peut et qui sert déjà aux randonneurs sur Paris pour baliser des itinéraires. C'est un livre qui, et vous aviez raison de le souligner, aide l'autochtone parisien à savoir, qui emprunte toujours le même itinéraire pour aller chercher sa baguette ou pour prendre son métro, à lui permettre de savoir que ce qu'il a toujours ignoré, qu'à 50 mètres de chez lui ou 70 mètres, il y a eu telle ou telle personnalité qui a résidé.
Alors, vous avez d'autres projets en matière de publication ?
Je n'en manque pas. Ce qu'il faut, c'est trouver l'adéquation avec l'éditeur intéressé et qui doit être passionné. Mais effectivement, il y a une... un prolongement de Pensée de Sahel avec les aphorismes, où l'ouvrage contiendra à ce moment-là 1600 items, c'est-à-dire que ça en fera le plus gros ouvrage d'aphorismes d'un même auteur. Et puis il y a un dictionnaire un ouvrage sur les objets fous, autrement dit, une anticipation qui sera sans doute illustrée de ce que notre société consumériste et parfois gadgetière nous promet.
Donc, en quelque sorte, c'est un appel à nos auditeurs éditeurs qui se seront bien inspirés en prenant contact avec vous pour vos futures publications qui seront, merci, je l'espère, extrêmement nombreuses. Voilà, donc nous avons fait un tour complet de la dernière publication d'Alain Dautria, professeur de stratégie à l'Institut supérieur de communication, auteur prolifique, pétillant d'intelligence. Alain Dautria est un homme de plume, mais on l'a vu aussi avec Alain Fournier, entre autres, c'est un homme de cœur. Alain Dautria, merci.
Merci.
J'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver très bientôt sur notre antenne, peut-être d'ailleurs pour votre prochain ouvrage, la parution de Pensée de Sahel, revue et corrigée. À très bientôt, merci à vous.